Chapitre 8e. Ainsi, répétait madame de Frézol le lendemain, vous voilà devenue propriétaire de Séan. C'est ma mère, madame, et non pas moi. Quelle différence y voyez-vous? J'en vois plusieurs. Mais en ce qui vous concerne, j'espère que ce sera tout un. Vous voici installée chez nous pour 100 ans, si la chose vous fait plaisir. Ma mère l'a promis. Suzanne, qui assistait à l'entretien, demanda. Vous n'avez pas craint que cette promesse ne soit une gêne pour madame de Fonlus? Car enfin, je ne suppose pas qu'elle ait acheté cette maison pour en faire un placement de rapport. Non, sans doute, répondit Bertrand. Mais quand elle a su par moi le nom et la qualité de ses locataires, il ne pouvait plus être question de leur causer l'ennui d'un déménagement. C'est une extrême obligeance de sa part, dit simplement madame de Frézol, qui se souvenait du temps où l'on avait des égards pour elle. Suzanne, plus habituée aux avanies que procure la pauvreté, ne répliqua rien, mais elle rougit de malaise à cette pensée qui lui vint aussitôt. « Voilà 6 semaines qu'il nous voit presque chaque jour, et hier encore sa mère ignorait notre existence. » Mais elle devint, dans l'espace d'une seconde, plus pâle qu'elle n'avait été rouge. Le marquis, loyal observateur du traité conclu la veille, disait à madame de Frézol « Maintenant il me reste à vous annoncer quelque chose de moins agréable. Pour moi, une absence que je dois faire. « Comment ? Nous n'allons plus vous voir ? Nous nous verrons moins d'ici à quelques semaines, » fit Bertrand avec émotion. « Mais le moment de ne plus nous voir n'arrivera jamais, sauf qu'il ne vous plaise de me fermer votre porte. « Oh Dieu, quelle parole ! » s'écria l'aimable femme en tendant la main à Fonlus qui la baisa. « Si vous permettez, » continua-t-il, « je passerai rapidement une petite inspection de propriétaire avant de vous dire au revoir. Les grillages tiennent-ils bon ? Que deviennent les roses de mademoiselle Suzanne et les choux de Claudine ? Faut-il vous envoyer le peintre ou le couvreur ?» Il s'est élevé. Madame de Frézol rappela sa fille, qui paraissait un peu absente, au sentiment de la réalité. « Accompagne dans sa tournée celui qui tient désormais notre sort dans ses mains, » fit-elle en riant. Suzanne ne riait pas, Bertrand non plus. Ils s'engagèrent dans ce qu'on appelait pompeusement la grande allée, qui avait bien 3 pieds de large. De son extrémité la plus lointaine au fauteuil de la chaire infirme installée devant le seuil, on comptait 100 pas en ménageant les enjambées. Quand ils eurent fait la moitié de la distance, le jeune homme commença, d'une voix qui n'était rien moins qu'assurée. « Mademoiselle, depuis quelques heures, l'avenir de ma vie est en question entre moi et ma mère. Il me reste à le décider. Mais auparavant, j'ai besoin de savoir une chose que vous me pardonnerez de demander si brutalement. Cet avenir, il m'est impossible de le voir heureux s'il ne doit l'être avec vous et par vous. Est-ce que j'ai fait un rêve impossible? Vous allez dire la parole d'où dépend toute une vie. » Les deux promeneurs étaient arrivés au grillage à demi cachés par l'herbe. Suzanne, appuyée sur un des pieux qui le soutenait, le regard fuyant au loin sous les grands chênes de la clairière, semblait ne pas comprendre. Elle aspira l'air avec effort et put enfin répondre par cette question. « Mais vous êtes fiancé ?»« Non, » fit-il gravement, « car jamais je n'ai fait ni désiré de faire à aucune femme la question que vous avez entendue et que je vous répète. Je m'appartiens et je me suis appartenu toujours. C'est mon être entier que je vous offre, avec un amour qui est et sera le seul de toute ma vie. Quel doute pourriez-vous conserver? Quelle objection pourriez-vous faire? Quelle autre chose que votre beauté douce et votre tendre parfum pourrait m'attirer vers vous, chère fleur cachée dans les bois, fraîche et bienfaisante comme leur ombre? » Ce n'était plus une question qu'il posait à cette heure. C'était un chant qui sortait de lui, le chant que l'amour heureux met sur les lèvres de toute créature vivante. Ce qu'il avait désiré de savoir, il le savait. Du lit jaunissant des fougères aux branches des chênes, puis à leur cime, le regard des yeux bleus de Suzanne avait monté à mesure que vibrait cette musique de l'aveu, jamais entendue, si peu espérée. Quand le jeune homme ne parla plus, elle tressaillit d'une sorte de crainte. Était-ce déjà fini, le rêve? Sur sa main, qui pendait, brûlante, 2 lèvres se posèrent doucement. La malade aurait pu voir, de son fauteuil, Bertrand de Fonlus agenouillé devant sa fille, mais elle ne songeait guère à les surveiller, les connaissant, les estimant, presque autant l'un que l'autre. « Ne restez pas ainsi, » pria Suzanne. « De grâce, relevez-vous. » Puis après un silence, elle ajouta, plus bas, sans regarder l'heureux suppliant. « Je sens vos yeux qui lisent en moi. Mon Dieu, comme vous voyez ce que vous voulez savoir. Ma bien-aimée, je veux l'entendre aussi. » Alors elle regarda bien en face l'homme à qui elle se donnait. « Pour toujours, » dit-elle, « vous avez ma vie. Oh, cher, n'oubliez pas que les pauvres fleurs des bois sont les plus faciles à faire mourir, non pas quand on les aime d'abord pour elles. » Au bras l'un de l'autre, moins vite encore qu'ils n'étaient venus, ils remontèrent l'allée et, dans la même attitude, ils s'arrêtèrent devant Madame de Frézol, qui trouva intérieurement l'intimité un peu grande. Elle demanda, fermant son livre, « Eh bien, monsieur, partez-vous content de l'état de votre domaine ? J'espère que vous n'y trouverez plus rien à perfectionner cette fois. » « Madame, répondit Bertrand, je pars, si vous le voulez bien, en portant ce qu'il y a de meilleur en Brette, le cœur de votre chère fille qui vient de m'être donné. » La surprise de Madame de Frézol fut grande, mais sa joie fut plus grande encore, et c'était une chose touchante de voir cette pauvre femme infirme et trahie par le sort lutter contre son émotion pour rester digne et maîtresse d'elle-même. « Monsieur, commença-t-elle, vous nous faites, à ma fille et à moi, le plus grand honneur que vous puissiez nous faire. J'avoue toutefois que votre demande, si peu prévue, elle ne put aller plus loin et fondit en larmes. Suzanne, à genoux près de sa mère, la calmait de son mieux. « Oh, madame, s'écria Bertrand, j'espère que vous pleurez de joie. »«
Non, balbutia madame de Frézol, il faut me pardonner. Je pleure la fin du meilleur moment de ma vie. Ce qu'était pour moi cet enfant bien-aimé, nul ne le saura. Combien de fois je remercie le bon Dieu, tout bas, de m'avoir ôté la force et le mouvement. Plus riche et moins éprouvée, je n'aurais pas eu, comme je les avais, chacune des minutes de ma fille. Et maintenant, si vous me la prenez, tout est fini. »
« Quel homme serais-je, protesta Bertrand, si j'avais la pensée de vous priver d'elle ? » Ces mots calmèrent la pauvre femme, ou du moins, ils changèrent la cause de son trouble. Elle essuya ses yeux et tâcha de se redresser dans son fauteuil.
« J'ai honte de moi, » dit-elle, « mais je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Ma tête ne vaut guère mieux que les jambes. Causons sérieusement. Vous me demandez ma fille, vous savez qu'elle n'a rien. N'allez pas croire qu'en parlant ainsi, je vous fais entrevoir une impossibilité. Je sais ce qu'elle vaut, ma Suzanne, et je vous adresse le plus bel éloge en déclarant que je vous crois digne d'elle. Mais tout le monde ne jugera point la chose avec mon orgueil de mère. On vous objectera que vous faites une folie. On ira plus loin, peut-être. Et puis j'y songe, vous m'annonciez tout à l'heure que vous alliez partir. Maintenant, vous voulez que ma fille vous accepte. Que signifie tout cela ? »
Bertrand de Fonlus, à son tour, commençait à retrouver son sang-froid et la notion exacte des responsabilités qu'il encourait. Il répondit avec un sourire fortement empreint d'amertume, « Cela signifie que j'ai une mère, moi aussi. »
« Monsieur, s'écria Madame de Frézol, si vous avez fait ce que vous venez de faire sans être sûr de pouvoir épouser ma fille, vous méritez, j'en suis tellement sûr, » interrompit Bertrand, « que je lui donne devant vous le baiser des fiançailles. »
Déjà, il avait pris la jeune fille dans ses bras, et de ses lèvres, il touchait son front. La tenant toujours enlacée, il continua.
« Que je cesse d'être du nombre de ceux qu'on estime si la femme que voilà n'est pas mienne un jour. Et vous, ma bien-aimée, voulez-vous me dire, devant votre mère, que j'ai votre foi ?»«
Vous l'avez, » répondit gravement Suzanne, « comme vous avez mon cœur. » »«
Cela suffit. S'il faut attendre un peu, vous attendrez, n'est-ce pas ?»
Les joues de la jeune fille pâlirent. Elle soupira ses paroles avec un léger frisson.
« Il faudra sans doute que j'attende, sans vous voir. » »«
Vous le devinez, chérie. Mais à cause de cela, précisément, je mettrai plus de hâte à vous conquérir. »«
Allez, » fit-elle, « que Dieu soit avec vous. Votre pensée et ma mère seront avec moi. »